Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galthié.
Pour cette 11e émission d'Oxyform, nous allons parler de médecine, de sport et notamment de nos pieds. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir un docteur, chirurgien orthopédique dans une clinique de la région toulousaine, mais aussi un spécialiste de la cheville et du pied. Notre invité va nous expliquer son parcours et sa passion pour la course à pied. Bonjour François Lintz.
Bonjour Romain.
Alors, vous êtes natif de Courbevoie, en région parisienne.
C'est ça.
Alors, comment ça s'est passé, cette jeunesse à Courbevoie ?
J'en ai aucun souvenir, puisqu'on est parti très rapidement, on a beaucoup bougé. Et finalement, Courbevoie, c'est qu'un lieu de naissance et j'ai très peu de souvenirs.
Par contre, vous avez voyagé en Angleterre pendant votre scolarité ?
Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui voyageait beaucoup, qui a travaillé dans de nombreuses et belles entreprises françaises. Il a été chez Alstom très longtemps et puis ensuite chez Areva. Et donc dans les années 90, Alstom s'est marié avec une entreprise anglaise qui s'appelait GEC, General Electric Company. Et donc on est parti là-bas, on a passé 4 ans. Voilà, j'étais dans une école anglaise, 100% anglaise, avec l'uniforme et tout, la cravate. De 10 à 15 ans et j'ai eu la chance d'apprendre à parler anglais couramment à cette époque-là.
Donc déjà très jeune, c'est un avantage d'être bilingue.
Tout à fait, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu cultiver. Donc après, pendant mes études de médecine, dès que j'ai pu m'intéresser à tout ce qui était recherche, effectivement, tout ça s'est publié en anglais. J'ai commencé à faire ça et ensuite j'ai eu l'opportunité de faire ce qu'on appelle un fellowship, c'est-à-dire un stage spécialisé, donc dédié à la chirurgie du pied et de la cheville en Angleterre, à Bristol.
Alors j'aimerais que vous nous situiez dans la médecine, depuis quand ça date et par exemple le serment d'Hippocrate, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Le serment d'Hippocrate, c'est un passage obligé. On doit le prononcer le jour où on présente sa thèse devant un jury. Donc en général, on a ses mentors, ses maîtres, on a ses parents qui sont là. C'est assez émouvant comme moment. Et on prononce ce serment d'Hippocrate qui dit, entre autres, que on doit soigner sans aucune distinction son prochain, comme sa famille, comme ses confrères, etc. Je ne le connais plus par cœur. Et bon, c'est une tradition parce que les choses quand même évoluent beaucoup et voilà, ça reste une tradition. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, moi je pense que ça a un côté un petit peu nostalgique, sympa. Voilà, j'ai des bons souvenirs de mon serment d'Hippocrate.
Et comment cette vocation vous est-elle venue ?
Tout petit, je devais avoir 5-6 ans, j'aimais beaucoup dessiner. Et puis je sais pas pourquoi il devait y avoir un bouquin qui traînait là, j'ai commencé à dessiner des os, des corps humains, voilà. Et j'avais mon parrain qui est rhumatologue et donc qui s'occupe des maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons, des ligaments, etc. Et donc tout petit, j'ai baigné un petit peu dans cette ambiance. Et mon parrain, c'était un peu le bout en train de la famille aussi. Il nous faisait beaucoup marrer. On avait l'impression que les études de médecine, c'était quand même bien sympa. Et je ne sais pas, tout ça ensemble, ça m'a porté. Après, je me suis retrouvé dans un lycée à Paris, Louis le Grand, qui était très orienté maths physique. Et pendant un temps, j'ai été un peu mis sur les rails de cette voie des écoles préparatoires et puis ensuite des écoles d'ingénieurs pour finalement quelques jours avant les dépôts de dossier revirer de bord et me dire que c'était vraiment la médecine que je voulais faire.
Et aujourd'hui vous êtes d'ailleurs spécialiste du pied et de la cheville. Alors comment en êtes-vous arrivé à cette finalité-là ?
Alors ça c'est la question très compliquée parce que le pied c'est très très compliqué comme structure et pour être honnête tout le monde fait quasiment l'impasse dessus quand on passe les concours de médecine et puis les concours d'internat et puis après quand on a ses partiels, quand on étudie l'anatomie, c'est pas bien connu le pied en fait, c'est peut-être parce que ça sent mauvais ou quoi, mais il y a très peu de questions qui tombent dessus à l'internat et au final c'est une spécialité chirurgicale qui est assez récente. Je dirais qu'il s'est distingué à partir des années, milieu des années 80, 90. Et c'est vraiment passionnant. C'est le pied qui soutient l'ensemble du corps humain. Il est soumis à des contraintes physiques incroyables. Il est capable de se réparer de façon merveilleuse. Et pour un chirurgien, il permet d'avoir toute l'étendue des interventions qu'on peut pratiquer ou des traitements médicaux aussi, parce qu'il y a beaucoup de patients qu'on n'opère pas. Ce n'est pas parce qu'on est chirurgien qu'on saute sur tout le monde avec le bistouri entre les dents. Et donc, on a vraiment accès à un panel de gestes chirurgicaux qui est extraordinaire, du traitement de l'ongle incarné à la prothèse de cheville, en passant par la traumatologie, les fractures, voilà.
Donc ce n'est pas étroitement lié avec le sport, ça peut avoir une conséquence, mais en fait, la chirurgie de pied, tout le monde peut y être soumise.
Alors l'avantage, c'est qu'on a tous deux pieds, donc déjà on a deux fois plus de chances, et puis on a cinq orteils aussi, donc tout ça, ça multiplie les chances, il faut voir les contraintes, c'est vraiment notre pneu, donc sur une, quand tu achètes une voiture, tu sais très bien que tes pneus vont s'user, et que c'est la première pièce que tu vas devoir changer au bout de 10 à 15 mètres kilomètres, ça dépend comment tu roules, là c'est exactement pareil, si dès l'enfance tu es un sportif à fond, ton corps va se conformer pour être efficace dans le sport et tu vas avoir un pied qui va avoir une forme différente de quelqu'un qui est plutôt sur les jeux vidéo et qui ne sort pas trop de chez lui. Et ça va prédéterminer, ça va être un facteur qui va conditionner le risque à développer telle ou telle pathologie du pied.
Alors vous êtes aussi vous-même sportif ?
J'essaye. Je ne dirais pas que je suis un sportif né, mais j'ai fait pas mal de sport avant les études de médecine, du VTT. Les études de médecine, c'est quand même très chronophage, donc j'ai rien fait pendant un certain temps. Et puis tu as l'internat, tu t'installes, tu développes ton activité, et puis tu as une famille, tu as des enfants. Et puis un jour, tu te réveilles, tu as 30 ans, tu es gros, tu es essoufflé au bout d'un étage, et puis tu te dis, mince, il faut que je fasse quelque chose. Et comme c'est vrai qu'au fond, j'adore ça, j'ai commencé à me reconditionner déjà. Donc toi, Romain, tu seras bientôt préparateur physique et coach. Donc je te souhaite plein de réussite là-dedans parce que c'est un beau métier et on en a besoin de plus en plus. Et en tout cas, j'ai commencé par ça. Et ça m'a duré 2 ans. Et après, j'ai eu une sorte d'envie de passer à autre chose. Et donc, c'est là que j'ai commencé à courir.
Vous pratiquez aussi notamment le barefoot dans la course à pied. C'est une technique un peu particulière.
Alors, le barefoot, c'est venu un petit peu à ce moment de remise en question autour de la trentaine où... si tu veux, tu as envie de te remettre sur pied, de pratiquer un sport à fond sans pour autant être né pour faire ça. Et tu te demandes un petit peu comment tu vas y arriver. Et puis, dans cette période de remise en question, tu lis beaucoup. Enfin, tu es beaucoup plus jeune, mais je pense que tu verras que tu commences à te poser des questions. Donc, tu lis des bouquins. Puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Born to Run, donc Né pour courir, qui est de Christopher McDougall, qui est parti à la rencontre d'un peuple mexicain qui s'appelle les Tarahumara, et qui court soit pieds nus, soit avec des chaussures qu'ils appellent des huaraches. Donc la plupart du temps, c'est une semelle faite à partir d'un vieux pneu usé avec trois lianes pour tenir à la cheville, et qui sont capables de courir sans discontinuer pendant 250 km sur 48 heures dans des canyons, sous le cagnard, en se nourrissant de graines et de quelques gouttes d'eau. Et donc ce type-là est parti à la rencontre de ces gens-là et a remonté tout le fil historique de la course à pied barefoot, qui en parallèle commençait à se développer au niveau scientifique aussi. Et donc suite à ce bouquin, suite à des conférences auxquelles j'ai pu assister aussi sur le plan scientifique, il m'est apparu que c'était non pas une solution, mais une manière de pratiquer la course à pied qui répondait à ce que moi j'attendais, c'est-à-dire renforcer mon corps, renforcer mes jambes, rééquilibrer les chevilles, les genoux, parce que j'avais fait des entorses aussi, un peu comme tout le monde, un traumato de base. Et donc, dans le sens où il fallait y aller très progressivement, de façon fractionnée, pour renforcer son corps, ça répondait vraiment bien à ce que j'attendais. Et c'est vrai que ça a pris une grosse place dans ma vie aujourd'hui.
Donc, ça règle quand même des problèmes de type postural, je pense, cette catégorie.
Tout à fait. Le postulat de base, si je veux, c'est de se dire, on est né il y a 35 000 ans, quelque chose comme ça, dans la savane africaine, à poil et sans chaussures, et qu'on est a priori pas fait pour se mouvoir avec des chaussures. Donc, dans un système qui est en équilibre aussi complexe que le pied, la cheville et le reste du corps humain, si tu introduis un élément perturbant qui est une chaussure qui a des renforts avec une semelle qui va t'amortir, tu romps l'équilibre quelque part. Et donc, le fait de supprimer cette chaussure, elle permet de revenir aux racines, elle permet de revenir au fonctionnement primal, on va dire, du pied dans le corps humain, et à remettre en place effectivement toute la posture.
Alors là, nous avons parlé de votre parcours. Maintenant, nous allons faire une première pause musicale avec un morceau choisi et proposé par François qui se nomme...
Donc c'est Hey Jude des Beatles.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get hurt. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Has found you, now go and get her. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better.
You can do it now.
Make it do na na.
Nous sommes de retour avec François Lintz. Que vous inspirez ce morceau ?
Quand tu m'as demandé de choisir un morceau, j'ai pensé à Coldplay déjà, parce que quand je vais courir, c'est ce que j'aime bien écouter. Et puis en fait, j'ai pensé à mes enfants, c'est ce que je leur chante pour qu'ils s'endorment. Donc voilà.
Et oui, parce que nous n'en avons pas parlé, mais vous êtes marié et vous avez 3 enfants.
Voilà. Je suis assez émotif, faut pas me faire parler de ça à la radio, mais pour tout dire, voilà, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
Donc voilà, vous êtes aussi créateur d'une start-up qui s'appelle Chips. Alors, en quoi ça consiste ?
En fait, Chips, le nom, c'était le résultat d'un brainstorming. On s'est dit, qu'est-ce qui nous plaît ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et on a jeté tout un tas de mots qui nous venaient à l'esprit. Et puis, on en a récupéré certains pour que ça fasse un mot sympa. Voilà, on a trouvé que Chips, c'était sympa. Ça nous a fait penser à un Chips, un microprocesseur. Et le thème, c'est le développement de la santé numérique. Donc ça, c'est le thème central. Et on est en train de créer un certain nombre d'applications dédiées aux patients, notamment dans le post-opératoire, puisque c'est notre premier métier. Mais surtout avec des potes. On avait envie de devenir entrepreneur et on s'est rendu compte que finalement, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent avec un plan tout tracé et tout fait, on arrive assez rarement au point qu'on a déterminé au départ. Et puis nous, on a fait ça un petit peu comme un hobby au départ, hein, parce qu'on est un chirurgien à plein temps et mes collègues ont aussi des métiers à plein temps. Et donc, on s'est fixé des valeurs et un thème qui est le développement de la santé numérique. Et moi, je vois ça comme vraiment quelque chose qui vient en plus de mon métier de chirurgien, parce que quand j'opère un patient, je suis content, un patient va mieux. Mais si j'arrive à développer des outils qui vont servir des milliers de patients, je sers aussi des milliers de patients. Et la quête de l'entrepreneur, elle est vraiment géniale. Le processus de création, il est assez incroyable et on adore vivre cette aventure.
Et au sein de votre start-up, quels sont les projets actuels et à venir ?
Eh bien, après un parcours d'entrepreneur classique, c'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de projets et qu'on n'a pas réussi, on a une vision qui est maintenant de développer un réseau dans la santé numérique et de créer des collaborations entre des boîtes, des projets qui nous plaisent. et d'investir parfois directement financièrement ou alors par nos conseils et notre expérience dans des boîtes qui nous plaisent. Il y en a une qui s'appelle Followelf, qui est une start-up française qui, dans son conseil de surveillance, a des gens comme le fondateur d'Ubisoft, qui est géré par un petit génie de l'informatique qui est le fils d'un chirurgien de Rennes et qui développe le logiciel médical du futur, en fait, qui va accompagner le patient depuis la salle d'attente jusque dans son suivi post-opératoire. Et donc ça, c'est un des projets. Il y a aussi Revinax, qui est une société créée par un chirurgien toulousain qui fait des tutoriels vidéo en réalité virtuelle. Et qui commence évidemment par la chirurgie, mais qui s'étend maintenant à tout type d'industrie. Et puis aussi, on a des projets qu'on développe, nous, avec en ce moment un projet important sur la rééducation post-opératoire et qu'on espère mener à bien dans les années qui viennent.
Et en parallèle de ça, justement, vous parlez de développer au niveau de l'outillage. Alors, vous pratiquez une activité de conseil pour le développement dans le matériel chirurgical, notamment.
Voilà, ben quand on est chirurgien, on est assez sollicité par les industriels, puisque ce sont eux qui fabriquent les implants qu'on utilise. Voilà, donc pour réparer une fracture, on peut utiliser des clous, des plaques, des vis. Ça fait assez menuisier, mais c'est assez sain. L'os, c'est une structure qui ressemble assez à du bois. Et donc on est sollicité par les industriels parce qu'eux, ils peuvent très bien avoir de bonnes idées, se mettre ensemble, mais ils ont quand même besoin d'avoir l'avis des chirurgiens pour pouvoir créer du matériel.
Alors vous faites beaucoup d'activités de recherche clinique actuellement ?
Alors effectivement, là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que lorsque je suis parti en Angleterre, mon mentor qui s'appelait Ian Winson m'a confié une tâche qui était de réfléchir à l'alignement du pied. Donc tu vois, on parlait tout à l'heure de barefoot, de posture, etc. Donc c'est exactement ça. Globalement, il faut que le centre de gravité de ton corps il soit au-dessus de ton pied et que la cheville elle soit bien entre les deux, ainsi que le genou, la hanche, quand tu marches, parce que sinon, tout part de travers. Et donc, il faut pouvoir mesurer ça quand tu es chirurgien pour savoir quand c'est pas droit, et puis aussi quand tu dois corriger, de combien tu dois corriger, et puis une fois que tu as corrigé, est-ce que tu as bien respecté ton planning ? Et donc, il m'a dit, mais on ne sait pas mesurer, en fait. Et il m'a demandé de réfléchir à ça, en tout cas pour le pied et la cheville. Et ça m'a emmené sur le chemin d'une entreprise qui s'appelle CurveBeam, qui est une entreprise américaine et qui fabrique un scanner nouvelle génération, basse dose, qui permet d'avoir une image du pied debout et qui actuellement est en train de remonter puisque maintenant on a même une image du genou en trois dimensions et en charge. Et donc tout le travail, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait comme mesure là-dedans pour pouvoir respecter l'anatomie du corps humain, l'anatomie normale, et pouvoir détecter l'anatomie anormale suffisamment tôt pour pouvoir apporter des corrections. Et c'est un champ de recherche énorme. Donc, j'ai bénéficié aussi d'avoir des radiologues dans ma clinique qui sont extrêmement visionnaires et qui nous ont permis d'avoir cet appareil. Et depuis qu'on a cet outil, c'est un champ de recherche infini. Et tous les jours, on a de nouvelles idées de recherche et tout ça, ça donne lieu à des publications, à des congrès, voilà.
Et ces activités qui sont toutes liées à votre profession, j'imagine que ça doit être important pour vous de pratiquer la recherche, qu'elle soit scientifique ou médicale.
C'est un petit peu à la frontière, en fait, parce que tu pars d'une idée qui est très clinique, qui est celle de pouvoir détecter les gens qui sont malades, peut-être même avant même qu'ils le ressentent, et puis ensuite de pouvoir leur apporter la meilleure correction possible. Et ensuite, tu fais intervenir des outils très modernes, comme ce scanner en charge, mais également ces données. Ce scanner, c'est une manière de récolter énormément de données. Et donc, tu rentres dans le traitement de données, donc le big data, l'analyse multidimensionnelle des données. Et là, tu rentres dans des maths, des choses très compliquées qui sont passionnantes. Donc, je dirais que tu es un peu à la frontière entre les deux. Le point commun, c'est que ça prend du temps.
J'imagine, parce que vous vous occupez de différents postes actuellement en tant que médecin.
Alors, L'avantage que j'ai en étant chirurgien libéral, c'est-à-dire que je suis mon propre patron, donc les postes que j'ai, je les crée moi, et puis j'en fais un petit peu ce que je veux. J'ai mon entreprise, j'ai mon activité, ce qui reste quand même le plus important pour moi de chirurgien, et je suis le directeur du comité scientifique de l'Association française des chirurgiens du pied. Qui est une association qui maintenant a plus de 20 ans et qui regroupe tous les chirurgiens français qui ont un intérêt dans le développement de la chirurgie du pied et de la cheville. Et donc, on a un congrès qui bientôt va se tenir à Reims au début du mois de juin et dans lequel, effectivement, on développe plein de choses. En particulier la recherche. C'est vrai que moi, j'ai voulu que... ce mandat-là, il soit vraiment dédié à faire des études scientifiques de qualité et à mettre des moyens là-dessus. Et c'est vrai que ça fait une partie importante de ma vie aussi. Plutôt entre 20h et 23h qu'aux heures ouvrables. Mais voilà. D'ailleurs, c'est important d'ajouter à ce stade que je fais partie d'une équipe de chirurgiens et que j'ai avec moi... des collègues, confrères, associés qui font exactement la même spécialité, qui participent au même projet d'enseignement, de recherche. Et c'est une grande richesse de pouvoir tous les jours participer à des discussions entre confrères sur le quotidien aussi bien que les cas difficiles.
Vous écrivez beaucoup donc pour la santé et la science. Je vois que vous avez une liste de titres et de publications à votre actif. Ça consiste en quoi, ce genre d'écrit ?
En fait, ça, ce sont des études scientifiques. Si tu veux, si tu as une idée, tu dis, tiens, je pense que dans telle opération, par exemple, le clou, ça marche mieux que la plaque. Il faut pouvoir le prouver. Donc, pour le prouver, il faut regarder ce que tu as fait ou alors décider, maintenant, je vais regarder ce que ça fait en vrai. Et puis, avoir une série de 20 patients sur lesquels tu mets un clou, 20 patients sur lesquels tu mets une plaque. Et au final, tu regardes le résultat. Alors, tu ne peux pas déjà définir tout seul, tiens, je vais faire ça, parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi en recherche. Donc, il faut qu'il y ait un comité d'éthique qui analyse la littérature scientifique passée et qui dise, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à démontrer de différence. Donc, on ne fera pas prendre de risques aux patients dans un cas comme dans l'autre, et on peut faire cette étude. Tout ça, s'écrit en fait, et au final, tu publies tes résultats, et par exemple, tu démontres que la plaque, c'est mieux que le clou. Donc, tu écris un journal scientifique, qui peut être le journal français d'orthopédie, le journal américain de chirurgie du pied, et là, tu as une revue par les pairs. Donc, tes pairs, des chirurgiens spécialistes du pied, vont analyser ta publication en disant « tu as tel biais dans le recrutement de tes malades. Ici, tu ne peux pas conclure ça. Voilà. » Et tu réécris et tu resoumets. Et on te dit au final, voilà, c'est bien, ta publication est bien, on accepte de la publier. Et donc, c'est ça qui constitue, par l'amoncellement de toute cette littérature, par moi, par tous mes collègues français, par tous les collègues dans le monde entier, qui constituent la science sur laquelle on se base pour effectuer des soins. Voilà, c'est en ça que la chirurgie a beaucoup changé depuis 10-15 ans, où avant, c'était effectivement surtout une histoire d'école. On apprenait de son maître et on apprenait à ses élèves des techniques qui avaient été développées sur place. Et puis, dans les années 80-90, les voyages chirurgicaux se sont beaucoup développés. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au fait qu'on puisse mettre en commun toute cette connaissance, on fait à nos patients pas l'opération qu'on a décidé ce jour-là ou qu'on a appris de notre maître. On fait l'opération qui est validée par la littérature scientifique.
Et donc, j'imagine que le fait d'avoir des mentors, c'est important. Est-ce que vous avez envie de transmettre et d'être à votre tour mentor pour des étudiants ? Est-ce que c'est déjà le cas, d'ailleurs ?
C'est déjà le cas et on essaye de le développer de plus en plus. On essaye de faire venir des internes, on essaye de faire venir des fellows. On a un Italien qui est resté avec nous 6 mois et avec lequel on a beaucoup publié. Alessio, qui était un type extraordinaire. Très sympa. Donc, en plus d'avoir le côté scientifique et de pouvoir transmettre, on s'éclate vraiment bien. Et donc oui, c'est en médecine, il y a ce qu'on appelle le compagnonnage. Donc j'apprends de mes mentors et je transmets à mes compagnons.
Et l'aspect voyage dont vous parlez, ça vous arrive souvent de voyager dans le cadre du travail ou tout simplement de la recherche et de faire des partenariats avec l'étranger, avec d'autres pays ?
Eh bien, en fait, ça évolue beaucoup tout ça parce que il y a quelques années, quand j'ai fait mon internat, tout ce qui était cours en ligne, etc., il y avait des choses en ligne, mais ce n'était pas encore si développé que ça. Et donc, il fallait beaucoup se déplacer pour aller à des cours. Voilà, le cours de la cheville, il était à Paris. Ben, moi, j'étais à Nantes. Il fallait que je prenne le train, que j'aille à Paris, tout ça. Ce côté-là, il va devenir, je pense, un petit peu moins important parce que, par exemple, le CJO, le Collège des jeunes orthopédistes français, est en train de remettre à plat tout l'enseignement de la chirurgie orthopédique et demande à chaque spécialité d'écrire des cours en ligne pour les futurs étudiants en chirurgie orthopédique. Mais après, c'est une volonté, voilà, de se tenir à jour, de faire sa formation continue, de ne pas se cantonner à aller une fois par an au congrès national français de la SOFCOT, donc la Société française de chirurgie orthopédique, ou du congrès de la chirurgie du pied, mais d'aller aussi au congrès américain, d'aller au congrès australien, d'aller au congrès, voilà, tout ce que tu veux, pour se tenir à jour. Et puis, par-dessus, quand on fait une étude scientifique, il faut aller la présenter dans un congrès. Donc là, on est sur un podium, ou alors on fait un poster, et puis on parle et on explique notre travail de recherche. Et ben ça, on est automatiquement motivé à le faire, parce qu'au départ, on a eu une idée, on a beaucoup travaillé pour cette recherche, et on a envie de transmettre cette idée, parce qu'on pense qu'elle va servir nos confrères, et donc qu'elle va servir potentiellement des milliers de patients.
Oui, donc le but, c'est quand même d'échanger, de partager un savoir, afin qu'il permette à chacun de s'améliorer, et justement de rendre service aux gens nécessiteux.
Exactement.
Ensuite, en quoi consiste votre activité de chirurgien concrètement ? En quoi se résume une de vos journées en tant que chirurgien ?
Alors, je pense qu'il faut maintenant parler de chirurgien hyper spécialisé parce que mon métier de chirurgien ne ressemble pas du tout au métier de chirurgien de mon collègue qui fait une spécialité de chirurgie de la main, par exemple. La chirurgie de la main, des doigts coupés, il y en a tous les jours. Donc, des chirurgiens de la main qui travaillent à 2h du matin pour réimplanter un doigt, ça arrive tous les jours. Le chirurgien du pied a cette chance que des urgences extrêmes comme ça, qui doivent être opérées sur le moment, c'est finalement très 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 rare. Donc déjà, j'ai un confort. Je travaille à des horaires qui me vont bien. Je prends parfois des gardes pour dépanner les copains, mais c'est pas tout le temps et c'est pas obligatoire pour moi parce qu'on a un fonctionnement comme ça aussi. Mon métier de chirurgien, avant tout, c'est de voir un patient, de l'écouter et de déterminer avec lui quelle est sa maladie. Parce que des fois, ils expriment des choses qui correspondent à des symptômes, mais bon, on n'a pas de diagnostic, donc il faut trouver le diagnostic. Il faut déterminer quel est le bon traitement. Ensuite, une fois qu'on a déterminé ça, il faut effectuer le traitement. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante à dire, c'est que je pense aujourd'hui, on doit aller de plus en plus vers une hyperspécialisation, c'est-à-dire c'est vraiment là que le patient a besoin de nous. Après, il y a un rapport humain qui s'établit et le patient a besoin de nous voir plusieurs fois pour être rassuré, pour aussi nous faire un retour, parce que c'est ça qui est sympa, hein, voir le sourire, dire « voilà, docteur, ça s'est bien passé », pour voir aussi, à l'inverse, assumer si un jour il y a une complication, s'il faut aller plus loin, s'il faut réopérer le malade. Il faut pouvoir être présent. Donc je dirais que c'est ça. Faire des diagnostics, poser des indications de traitement, rassurer, écouter les malades et effectuer le traitement, qui est la partie technique et la partie traditionnellement qui est la plus associée à notre métier.
Et quel est votre rapport avec les patients en général ?
Ben, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient quand même un petit peu personnels parce que comme je disais, des fois la plainte n'est pas exprimée de façon immédiate, de façon claire par le patient. Donc il faut passer le temps qu'il faut. Des fois c'est 30 secondes, des fois c'est 2 minutes, des fois c'est 20 minutes. Mais pour connaître le patient un tout petit peu sur le plan personnel, savoir qui il est vraiment, pour pouvoir vraiment comprendre sa douleur, de quoi il se plaint.
Donc il y a un aspect psychologique qui est quand même important.
Il y a un aspect psychologique qui est très important et qui détermine totalement les suites. Si on n'a pas bien compris un patient, on peut réaliser un traitement à la perfection et ça peut partir en catastrophe parce que on a pas su écouter. Voilà.
Vous travaillez avec d'autres corps de métier, du type kiné, coach, ostéo, dans le cadre d'une rééducation, même du pied.
Alors, on a beaucoup de chance là-dessus. On est très bien entouré. Effectivement, bah les premiers dans le pied, c'est les podologues. Hein. Donc, c'est vraiment nos partenaires sur le versant médical, c'est-à-dire traitement conservateur, donc traitement sans opérer. Et donc, les patients passent tous par là. Hein. Quand on vient nous voir que, très souvent, on n'a pas vu le podologue, bah, c'est retour au podologue. Il faut déjà commencer par là. Les traitements, ça peut être des cordes, des durillons. On voit beaucoup de gens pour ce genre de problème. L'ongle incarné, typiquement, mais aussi quand on a une cheville instable, par exemple, on va faire une semelle qui va réaxer un petit peu la cheville. Voilà, on va toujours commencer par essayer ce que je disais, le traitement du pied de la cheville, c'est rarement urgentissime. Donc, on a toujours le temps de réfléchir et de proposer un traitement qui ne soit pas chirurgical. Comme ça, quand on arrive à la chirurgie, on sait qu'on a tout essayé et que c'est vraiment légitime de proposer un traitement chirurgical. Ensuite, il y a les kinés, parce qu'eux, ils vont intervenir en post-opératoire et c'est presque... C'est 50%. Nous, on va réaliser un geste technique. Et après, le patient va cicatriser. Et pendant qu'il cicatrise, souvent, il faut qu'il soit immobilisé. Donc, il va perdre. Il va perdre du muscle, il va perdre du calcium dans ses os. Ses ligaments vont se rétrécir, il va être raide. S'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est actif, qui lui apprend comment bouger, et de plus en plus tôt, on a les soucis de raideur, de douleurs persistantes, etc. Donc, le travail du kiné, il est fondamental. Ensuite, on a tout le reste, assistante sociale, psychologue, ça c'est rare qu'on en ait besoin en chirurgie du pied, mais ça arrive. Et puis on a toute l'équipe chirurgicale à la clinique. Et ça c'est encore une grande liberté, un grand bonheur pour moi de pouvoir avoir l'équipe que j'ai choisie pour travailler avec moi. Et j'ai la chance d'avoir une collaboratrice qui est ma secrétaire et qui fait un travail incroyable. C'est elle qui accueille les patients, donc c'est le premier visage qu'ils voient, c'est elle qui les accompagne pendant tout le trajet. Et depuis peu, je travaille avec également une infirmière qui est mon employée et qui travaille avec moi dans le même esprit et qui accompagne les patients avant, pendant, après les interventions. Et c'est très important qu'ils aient plusieurs personnes qui sont dans le même esprit et qui les entourent pour pouvoir répondre à leurs questions.
Puis c'est même rassurant pour vous dans le cadre du travail, ça permet d'établir une confiance.
Tout à fait, c'est quelque chose qui est très important dès le début d'établir un rapport de confiance avec le patient. Les patients le sentent très bien, cette confiance, mais on va dire, peut-être l'image, même si c'est de moins en moins vrai, mais l'image du chirurgien, parfois, endort un petit peu cette réaction que peut avoir le patient et peut entraîner que parfois des patients vont se faire opérer alors qu'en fait, ils ne le sentent pas. Ils ne sentent pas la relation avec le médecin. C'est pour ça que tu parlais de rapport psychologique, de l'importance de la psychologie, c'est très important en effet. Il faut essayer de dépasser l'appréhension du patient, non pas pour le convaincre, mais pour savoir si lui-même est convaincu ou pas qu'il faut qu'il se fasse opérer.
Vous avez un rapport avec les sportifs au niveau du pied ? Ça vous arrive souvent d'intervenir pour les sportifs ?
Le pied, c'est la structure du corps qui est le plus traumatisée, à peu près entre 5 et 10 000 fois par jour. Ça dépend du genre d'activité que tu as, mais donc il y a... Très souvent, oui, des patients sportifs qui viennent nous voir. Après, tu vois, on parlait au départ de la démarche barefoot, donc courir pieds nus, etc. En fait, les sportifs ne sont pas du tout les plus malades. Quand tu fais du sport, quand tu bouges, ça te renforce. Donc, ça te protège contre beaucoup de pathologies. Après, les sportifs ont plus de traumatologie. Donc, effectivement, ils vont se rompre un peu plus souvent le tendon d'Achille, ils vont se faire un peu plus souvent une entorse de cheville. Mais c'est que très tardivement qu'ils auront des atteintes qu'on appelle dégénératives, c'est-à-dire de l'arthrose. Et il faut plusieurs facteurs quand même pour aboutir à ce genre de, de résultats-là. Mais oui, en effet. Voilà. Et ce n'est pas forcément les patients les plus simples à prendre en charge parce qu'ils sont très exigeants, ils connaissent bien leur corps, donc ils s'écoutent beaucoup, ils s'inquiètent assez facilement pour des symptômes qui probablement ne sont pas inquiétants. Et donc, c'est des gens pour lesquels il faut beaucoup d'écoute. Et surtout, après l'intervention, il y a beaucoup de frustration. Parce que là où quelqu'un de sédentaire, qui a encore quelques douleurs, au bout d'un mois et demi, ben, ça n'a pas de conséquences, et puis il fait avec. Le sportif qui déjà ne court plus ou ne fait plus son sport depuis 6 semaines, et à qui on explique qu'il y a encore au moins 2 mois derrière, voilà, le côté psychologique est plus lourd à gérer.
Et voilà, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la microchirurgie ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, je vais le faire, puisque tu me poses la question, mais en fait, ça ne me concerne plus, la microchirurgie. Et je pense qu'il faut distinguer la microchirurgie de la chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive, c'est une démarche qui est plutôt moderne, de vouloir réduire l'impact d'une opération sur les tissus sains, qui est nécessaire pour traiter le tissu qui est malade. Donc ça, c'est la chirurgie mini-invasive. La microchirurgie, c'est la chirurgie sous microscope. Et ça concerne vraiment au premier lieu les chirurgiens de la main, les neurochirurgiens par exemple. Typiquement, un doigt qui est sectionné, il faut le réimplanter, il faut suturer 2 nerfs, 2 artères, 2 tendons, et mes collègues chirurgiens de la main me diront sûrement que j'en oublie, mais en tout cas, c'est des structures qui sont toutes fines et qui requiert de passer un diplôme interuniversitaire de microchirurgie que j'ai passé, mais aujourd'hui je ne referai pas de microchirurgie parce que je n'ai pas de pratique. Par exemple, au Japon, ils ont formé des techniciens qui font les sutures microchirurgicales. Donc le chirurgien, il dissèque, il met les vaisseaux, les nerfs, les uns en face des autres, et il s'en va. Et il y a un technicien qui est d'astreinte et qui se réveille, qui vient, qui fait la suture et rentre chez lui. Et tout le reste du temps, quand il n'est pas en train de faire les sutures, il s'entraîne sur des souris à suturer des vaisseaux et des nerfs de souris. Et donc, on est encore dans l'hyperspécialisation d'avoir un geste qui est une personne qui ne fait que ça.
C'est du travail à la chaîne en soi.
Au Japon, oui. Chez nous, beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'on a des chirurgiens de la main qui travaillent tellement, qui font tellement de traumatologie, qui font plusieurs sutures microchirurgicales par semaine. Et ils ont donc largement l'expérience de faire ça. Mais la définition de la microchirurgie, c'est la chirurgie sous microscope.
Voilà. Et qu'est-ce que la chirurgie arthroscopique ? C'est pour l'arthrose ?
Non, la chirurgie arthroscopique, arthro, ça veut dire articulation. Et scope, ça veut dire regarder. Donc en fait, c'est utiliser un scope, donc c'est-à-dire un tube avec d'un côté une caméra et une lumière, et de l'autre côté, un optique qui va permettre qu'on va introduire dans l'articulation pour aller regarder ce qui se passe et faire des gestes. Donc l'exemple, allez, je vais donner, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, les deux exemples peut-être les plus connus, c'est dans l'épaule, la chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs, qui se fait maintenant quasi exclusivement sous arthroscopie, et au niveau du genou, la chirurgie de réparation du ligament croisé antérieur, qui touche beaucoup de nos amis rugbyman et footballeurs,
skieurs,
etc. Et voilà, peut-être que, enfin, je suis certain que tu as des amis qui ont déjà subi cette chirurgie,
oui, un paquet,
qui se fait exclusivement sous arthroscopie.
Ensuite, ben, nous allons parler vraiment du pied, hein, parce que le pied nu, est-ce que c'est recommandé de laisser ses enfants pieds nus que de leur mettre des petites chaussures pour justement travailler cette proprioception et cet équilibre dès le plus jeune âge ?
Alors, ce que je vais dire, et tout ce que j'ai dit d'ailleurs, peut être soumis à discussion, et d'ailleurs, il y a des écoles, et puis il y a des pour, il y a des contre, etc. Mais effectivement, il y a quand même un mouvement aujourd'hui de revenir à ce qu'a fait la nature. C'est-à-dire que la nature nous a créé comme ça, avec ce pied-là, pour que ce pied marche nu. Est-ce que vraiment, du haut de nos 2000 ans d'évolution et de nos 150 ans de médecine, on est capable de faire mieux que 5 milliards d'années d'évolution, quoi. Effectivement, oui, moi je recommande aux patients de laisser les enfants courir pieds nus. Mes enfants courent pieds nus, dans le jardin ils sont pieds nus, et c'est très bien comme ça. Après, il y a des pathologies, et il faut regarder individuellement de quoi on parle. Mais la règle générale, c'est que oui, si tu mets une chaussure, quelque part, tu immobilises ton pied. Donc, il ne fonctionne pas. Donc, les muscles ne se développent pas, les os ne se développent pas. Si tu le laisses nu, il est soumis à des contraintes, il est soumis à la gravité et il va pouvoir se développer.
Et chez les sportifs, cette proprioception, vous dites qu'elle est, accrue, elle est même renforcée par l'activité. Mais il y a beaucoup de sportifs qui vont se faire des entorses. C'est la suractivité qui provoque ce genre de blessures récurrentes chez les sportifs ?
Non. Comme je te disais, c'est affaire d'école. Maintenant, il y a un gros facteur, et ça, on est en train de faire une étude scientifique dont je ne peux pas donner tous les détails, mais globalement, la chaussure a probablement un rôle majeur dans l'instabilité chronique de cheville, c'est-à-dire dans les entorses. Pieds nus, c'est presque biomécaniquement impossible de se faire une entorse. Avec une chaussure, c'est tout le contraire. Dans une chaussure, tu es posé sur une plateforme qui immobilise ton pied. Donc déjà, ça affaiblit ton pied. Ensuite, cette plateforme, elle est plus large que ton pied. Et elle est dure. Donc, quand tu commences à avoir un mouvement d'entorse, au départ, ton pied, il est plat, l'énergie potentielle s'accumule, et tout d'un coup, ton pied tourne sur la tranche. Donc, ça va très vite et ça va très fort, et c'est ça qui déchire les ligaments. Quand t'es pieds nus, ta peau, tes ligaments, ton système proprioceptif profond fonctionnent tout de suite. Et ton talon, il est rond. Donc, il va commencer à rouler. Donc, ça va beaucoup moins vite. Et tes tendons, tes muscles ont le temps de réagir et de se tendre et d'éviter que ça aille plus loin. Donc, probablement, le chaussage a un rôle très, très important dans l'instabilité de cheville. Après, c'est surtout qu'au sport, ça va très vite. Et des fois, il y a des chocs, donc ce qu'on appelle des pivots et des contacts, qui sont très, très importants. Avec des vitesses et des énergies très importantes et qui sont suffisantes pour déchirer les ligaments, ce que tu n'as pas forcément chez des non-sportifs.
Et chez les sportifs, on parle beaucoup de soins, de blessures, mais est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement, un traitement, un entretien du pied et de la cheville pour les sportifs à mettre en amont avant pour prévenir ce genre de pathologie ou de blessures?
Alors, je dirais... déjà, marcher pieds nus, c'est déjà pas mal, le plus possible. Être bien entouré, parce qu'il y a des fédérations sportives où les sportifs sont très, très bien entourés. À partir du niveau régional et encore au niveau national, il y a ce qu'il faut. Il y a des médecins spécialistes, il y a des kinés spécialistes, il y a des ostéos spécialistes, il y a des podologues spécialistes. Les gars sont bien entourés. En dessous, dans les petites fédés, dans les villes, dans les villages, etc., l'entourage du sportif n'est pas forcément aussi évident. Et puis, on est plus dans le domaine du sport loisir aussi, donc les gens spontanément se font moins entourés. Donc, avoir un bon suivi, avoir des chaussures qui sont bien, qui ont été vues par le coach, avec des conseils appropriés, je pense que c'est important. Mais... avoir une partie de son entraînement qui est fait pieds nus, c'est probablement important. Après, on a les contraintes de la vie moderne, quoi. On marche sur du béton, dans la rue, il y a des bouteilles cassées qui traînent, il ne faut pas non plus se blesser les pieds inutilement. Mais l'entraînement pieds nus a probablement une valeur qui est sous-estimée aujourd'hui.
Mais pour en revenir justement aux Japonais, moi j'ai pratiqué le judo et le jiu-jitsu pendant longtemps et effectivement on est en kimono et pieds nus et c'est ouais. Vrai que j'ai jamais eu de blessure au niveau du pied ou même ailleurs, quoi que ce soit. Je pense que justement même cet équilibre qu'on développe au sein du judo, c'est un équilibre qui est reconnu dans beaucoup d'arts martiaux, dans beaucoup de sports. C'est quelque chose d'important parce que ça stabilise et effectivement j'y avais jamais pensé, mais... Effectivement, peut-être que le fait d'être pieds nus et d'avoir les orteils bien agrippés au sol permettent de...
Exactement. Dans une chaussure, par exemple, souvent les chaussures sont un peu étroites au bout du pied, donc les orteils ne peuvent pas s'étaler correctement. Et ce faisant, ils n'ont pas un bon appui. Et on se retrouve avec des choses comme les métatarsalgies, donc des gens qui ont mal, qui ont des durillons sous le pied, qui ont l'impression de marcher sur une pierre ou un caillou. Et parfois simplement en marchant pieds nus, en remusclant son pied, en faisant des exercices tout simples, par exemple avec une balle en mousse, en essayant d'agripper une balle en mousse ou d'attraper une serviette au sol avec ses orteils, on arrive à progresser là-dessus.
Quelle est la différence justement entre un podologue, un kiné? Quel est le but du podologue?
Alors, le podologue, c'est quelqu'un qui s'occupe exclusivement du pied et qui traite le pied de façon conservatrice. C'est-à-dire qu'il ne va pas opérer un pied, mais il va faire des soins externes, par exemple sur un durillon qui est très épais avec de la corne qui quelque part s'auto-entretient. Il va pouvoir, avec des fraises spécifiques, enlever la corne et retrouver une peau souple qui fait que tu romps le cercle vicieux et que la douleur va disparaître. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être traités comme ça avant d'arriver au stade de la chirurgie. La grosse activité, alors ça c'est plus la pédicurie, une grosse activité, c'est les soins des ongles, parce que par exemple, il y a les mycoses, les ongles incarnés, etc. Les podologues vont prendre en charge ce genre de pathologie. Et puis, il y a une grosse partie qui est aussi la confection des semelles. Donc, les semelles pour les chaussures de tous les jours, et puis les semelles pour le sport. Et il y a de plus en plus de podologues, et à Toulouse, on est bien fournis, qui s'orientent vers les semelles du sportif.
Alors, justement, par rapport à nos fameuses marques de chaussures, avec cet effet de mode, j'ai l'impression qu'on sort de plus en plus des modèles différents à la mode, mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect purement marketing et qu'au détriment justement du confort de la basket ?
Totalement, mais si, en lisant ce livre, donc Born to Run, tout ça c'est très très bien raconté. L'esprit humain fait parfois des raccourcis qui au final ont des mauvaises conséquences, mais qui semblent logiques. C'est-à-dire, tu te dis, je cours, donc ok, je vais mettre un ressort sous mon talon. Voilà, ça me semble être une bonne idée, ça va amortir les chocs. Mais en fait, ça convertit une énergie directe par le choc en instabilité. D'accord ? Parce qu'au final, l'énergie, c'est quoi ? C'est le poids de la personne qui est en train de courir multiplié par sa vitesse au carré divisé par 2. D'accord ? Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Et cette énergie cinétique, elle ne change pas. Donc si elle n'est pas absorbée par la jambe dans son ensemble, et que tu mets un espèce de coussin amortissant entre le sol et la jambe, tout ça s'est transformé en instabilité, en fait. Et ça rend le corps plus paresseux, et paradoxalement, il s'affaiblit. Alors après, ça dépend si on est le coureur du dimanche, on va être vraiment sensible à ça, ou si on est un sportif né et qu'on court depuis le début et on ne va pas forcément être sensible à cet état de fait. Mais il y a totalement un effet commercial avec une espèce de surenchère de mousse de plus en plus perfectionnée, de coussins à air, de pourquoi pas de ressorts. Enfin, il y a des trucs assez hallucinants. Et il y a vraiment un aspect commercial, parce que l'idée semble bonne au départ.
Ça me fait penser aussi aux chaussettes de contention que l'on trouve notamment pour les coureurs. Beaucoup de coureurs me l'ont conseillé, qui sont à des prix exorbitants. Pour le retour veineux, vous pensez quoi de ce type d'équipement ?
Personnellement, je préfère que ce soit mes veines qui fonctionnent bien et mes muscles qui se contractent bien et qui soient à l'origine d'un bon retour veineux, plutôt que de rajouter une contention. Après, je pense que, je n'ai pas lu la littérature scientifique là-dessus, mais je pense que peut-être que ça peut avoir un effet mécanique, c'est-à-dire que si on contraint un peu plus l'enveloppe musculaire, on peut avoir une meilleure transmission des forces au niveau de l'articulation. Mais en même temps, il faut penser aux conséquences. Mon enveloppe musculaire a cette consistance et cette élasticité-là, c'est pour une raison, c'est parce qu'elle correspond à ce que mon articulation peut encaisser. Donc si artificiellement je fais passer plus de force dans mon articulation, est-ce que je ne vais pas déclencher des problèmes au niveau de mon articulation ? Donc ces chaussettes de contention, comme tu vois, je suis un peu plus pour le retour à ce qui est naturel, plutôt que d'en rajouter, quoi. Je pense vraiment pas que la technologie, au stade où elle en est en tout cas, puisse faire mieux à ce point-là que ce qu'a fait 5 milliards d'années d'évolution.
Donc vous avez écrit beaucoup d'essais scientifiques. Est-ce que, avec tout ce talent d'écriture, vous n'aimeriez pas écrire autre chose de plus personnel, comme un roman ou quelque chose de plus justement plus libre et moins astreint à des règles scientifiques?
Alors, le roman, je ne sais pas si j'ai un don pour ça. y a des grands auteurs que vous connaissez très bien qui font ça très très bien. Moi, j'aurais plus envie d'écrire des choses assez courtes sur des problèmes importants qui sont méconnus. Par exemple, raconter cette expérience effectivement sur le barefoot et le lien que ça a avec la chirurgie, notamment du pied, ça pourrait être très intéressant. Mais c'est pas encore le moment pour moi. J'ai trop de choses et pour l'instant, j'envisage pas de le faire, mais j'y pense pour un jour. Ouais.
Parfait. Mais maintenant, nous allons quand même passer à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors, nous allons commencer par le choix littéraire de l'invité.
Donc, c'est le livre Born to Run de Christopher McDougall.
Bon, vous nous avez un peu parlé précédemment de ce livre. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs pour leur donner envie de le lire ?
Eh bien, déjà, c'est une belle histoire qui se passe partout dans le monde. Donc ça va du Mexique aux États-Unis, en passant par l'Europe, le Japon, l'Afrique, les origines de l'homme, puisque l'auteur, pour arriver à tirer les ficelles de toute cette quête passionnante sur la course à pied, pieds nus, va remonter jusqu'aux sources de l'humanité dans les savanes africaines et va retrouver des tribus qui aujourd'hui encore fonctionnent comme les êtres humains primitifs, qui sont donc des chasseurs-cueilleurs et qui sont capables de courir des jours durant sans s'arrêter et de façon totalement pieds nus. Donc déjà le voyage et puis aussi la quête de soi-même, la recherche de réponses à des questions qu'on se pose tous, hein, qu'est-ce qu'on fait là, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et puis il y a un côté aussi motivationnel, hein, c'est-à-dire que quand on va courir, moi j'aime bien lire des livres audio, hein, parce que ça permet de gagner du temps aussi, donc je les télécharge, je mets mes écouteurs et je vais courir, et quand on court en écoutant Born to Run, on est motivé pour courir.
Ça galvanise,
exactement.
Alors moi, pour le choix de lecture d'Oxyform, j'ai choisi Les 4 accords Toltec. Alors c'est un livre de développement personnel que j'ai lu il y a un petit moment. Et bon, je vais vous lire une phrase de l'auteur. « À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. » Donc voilà, c'est un livre qui, pour moi, nous permet d'être une meilleure personne en ne prenant moins personnellement les choses que l'on peut entendre et en réagissant de manière moins violente à ce qu'on peut percevoir de l'autre.
Les courses à venir dans la région.
Alors, pour ce week-end, nous avons la course Cap sur Grenade ce samedi 2 juin 2018. Le départ est à 18h40 et vous propose une course de 5 ou de 10 km à Grenade. Ensuite, le lendemain, ce dimanche 3 juin 2018, nous avons la course de Mons. Le départ est à 9h30 et vous propose une course de 4 km, de 9 km ou bien pour les plus endurants, 21 km. Donc, elle se situe à Mons.
Oxyform.
Nous remercions François Lintz.
Merci Romain.
Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galthié. Nous remercions Jean-Louis Arzac à la technique. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.